Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Chaque jour, j'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs du changement. Aujourd'hui, émission spéciale à la veille du Tour de France avec ceux qui innovent au service des cyclistes. Vous allez découvrir un guidon connecté, une appli immersive comme si vous étiez en selle et un casque qui se plie en deux. Elle existe depuis 1951, elle est devenue leader de la pédale automatique. Vous voyez probablement ces vélos sur la grande boucle en carbone, Lookcycle et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis si vous voulez connaître les meilleurs parcours pour faire une sortie vélo, Mountpass est probablement la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez dès à présent décrocher votre téléphone et composer ce numéro pour être en direct avec nous et partager peut-être votre amour du vélo avec nous.
Oui, pour le lancement effectivement du célèbre et mythique Tour de France, on parle vélo aujourd'hui. Les amateurs de cyclisme sont très nombreux en France, alors venez nous parler de votre passion. Est-ce que vous faites du vélo en amateur, cycliste du dimanche ou plus? Vos questions, vos témoignages, c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21, c'est le standard Raphaël, 50 centimes la minute.
Car demain, vous le savez, hein, c'est lancé depuis Bruxelles le Tour de France. On y était il y a quelques minutes avec Axel mais en direct. La chasse au maillot jaune est ouverte, hein, puisque ce maillot, eh bien, il a 100 ans cette année. Et le Tour de France, c'est vrai, a bien changé depuis les Merckx ou les Hinault. Les performances ont évolué, le matériel aussi. C'est ce qu'on va voir avec des Français qui ont su innover au service de la course. Et pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, elle est là. C'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Notre coach est là aussi aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Luc.
Bonjour Raphaël, bonjour l'équipe.
Qu'on soit amateur ou professionnel, quand on aime le vélo, on est à l'affût de toutes les innovations. Et celle qui arrive est assez bluffante. Bonjour Johnny Smith.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Velco. Velco qui est basé à Nantes, qui est une société qui existe maintenant depuis 2014. Et tout commence, je crois, avec un vol de vélo.
Effectivement. Alors en fait, on est parti d'un constat simple. C'est qu'en fait, en France ou dans le reste de l'Europe, il y a beaucoup trop de vols de vélos. Pour pallier à ce problème, on a créé une solution. Cette solution, elle s'appelle Wingbar. C'est le premier guidon de vélo connecté. Il peut s'intégrer sur n'importe quel vélo. Et à partir de là, je vais être capable de géolocaliser mon vélo en temps réel.
Oui, alors le vol de vélo, il est arrivé à un de vos cofondateurs.
Exactement.
Et donc, il s'est dit, c'est pas possible. Au moment où on est en train d'inventer la valise qu'on trace, on devrait aussi pouvoir tracer les vélos.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup d'objets qu'on pouvait tracer grâce à un système en fait, de géolocalisation. Et on s'est dit, pourquoi pas le vélo, étant donné qu'on arrive de plus en plus sur une valeur du vélo de plus en plus chère, étant donné qu'on est sur des vélos à assistance électrique à présent, ou des vélos de course, par exemple. Et donc, on s'est dit, il faut absolument le faire, il y a un besoin.
Ouais, la technologie existe. Comment vous faites-vous pour justement mettre cette technologie dans le guidon?
Alors du coup, un gros processus d'industrialisation et de design qu'on a fait en France. Donc on a travaillé avec différents experts pour pouvoir le faire. Et en fait, on a décidé d'intégrer toute la technologie dans le guidon, étant donné que le guidon est un élément standard du vélo.
C'est-à-dire qu'on a embarqué la même technologie qu'un smartphone, par exemple, à l'intérieur du guidon?
C'est exactement ça. En fait, on a une technologie similaire à celle d'un smartphone. On a par exemple du GSM, du GPS, du Bluetooth, du RFID. Ce qui permet, en fait, c'est toute cette technologie qui permet d'apporter de réels services à l'utilisateur. Donc ce n'est pas que de la géolocalisation, il y a aussi de la navigation GPS, de l'éclairage automatique, un service de statistiques. Tout ça est disponible en fait pour l'utilisateur à travers son application mobile.
Et on la voit, hein, cette application justement dans notre vidéo sur le site europe1.fr si vous nous suivez sur ce site en ce moment. Donc ce Wingbar, il a plusieurs fonctions. Il y a aussi les lumières à l'avant. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Combien il vous a fallu de temps pour développer ce concept?
Alors on a commencé, c'est ça, en 2014-2015. Oui. On a créé la société en 2016. Première levée de fonds en 2017 pour pouvoir agrandir l'équipe et puis commencer vraiment le design, l'industrialisation de la solution.
Oui, et puis vous étiez étudiant, je crois, hein, tous
on
les
était,
trois.
C'est ça, on a créé la société, on était encore étudiant et on a démarré comme ça. Et puis on a fait grossir l'équipe au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est 20 personnes basées à Nantes. Et puis voilà, la distribution de la solution a commencé en France, en Belgique, aux Pays-Bas et puis on ouvre d'autres pays bientôt.
Elisabeth, les pratiques du vélo, ça concerne beaucoup de monde.
Mais
je
oui,
dis
hein.
les pratiques parce qu'il y a ceux qui en font.
Il y a les débutants, il y a les amateurs, il y a ceux qui sont fédérations. Alors, par exemple, et ça en dit beaucoup, ça en dit long sur la pratique du vélo en France, la Fédération française de cyclisme le dit, ça ne cesse, les licenciés ne cessent d'augmenter. On compte 119 280 adhérents cette année. Le nombre de licenciés, je vais vous donner un chiffre, en 10 ans, a augmenté de 13%. Donc, cela nous dit bien, cela montre que le cyclisme, sous toutes ses formes, attire de plus en plus de monde.
Alors, votre guidon connecté, le fameux Wingbar, il est intéressant aussi parce qu'il est quasiment totalement made in France. 96%, ce qui est déjà beaucoup. Vous avez quatre industriels, hein, notamment, qui vous fournissent et tous sont en Vendée.
Alors du coup, ils sont dans la région de Nantes, en fait. On a l'aluminium qui vient d'Asie. C'est la pièce où, malheureusement, en France ou en Europe, on a du mal à avoir un produit compétitif. Et ensuite, plastique, électronique, batterie, tout ça est fait dans la région de Nantes, en fait, aux alentours, entre 2 heures de Nantes environ. On voulait vraiment garder nos industriels proches de nous.
Parce que ça permet un meilleur contrôle aussi du produit.
Totalement. C'est pour s'assurer de la qualité du produit. On est sur un produit industriel assez complexe. Donc on a vraiment voulu garder ça proche de nous. Et puis aussi, on est dans le monde du vélo et on est fiers de pouvoir faire un produit français.
Que dit notre coach, Luc ?
Tout d'abord, félicitations parce qu'un produit made in France dans ce type de technologie, c'est bien, bravo. Je voulais vous poser la question, et quels sont vos clients ? Parce que je crois que vous avez une clientèle, vous adressez pas directement aux consommateurs, c'est une clientèle, ce qu'on appelle B2B, c'est ça ?
C'est exactement ça. Nous, en fait, on travaille directement avec des distributeurs qui vont, eux, commercialiser en magasin de vélo.
Ça veut dire que le vélo est équipé déjà quand on l'achète, c'est ça ?
Alors c'est ça, en fait on a deux possibilités, soit on vient dans sa boutique et puis on a un vélo et on dit « Ok, j'aimerais en fait le géolocaliser à présent ». Apporter cette technologie et dans ces cas-là le magasin peut l'installer lui-même et puis on travaille sinon avec des fabricants qui l'installent eux directement en première monte pour faire en fait des gammes de vélos connectés.
Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, je crois que vous faites une grosse partie de votre chiffre d'affaires à l'export, ça veut dire qu'il y a plus d'utilisateurs de vélos en dehors de la France ou...
Alors le marché français, il a un fort potentiel, ça c'est clair. Nous après, depuis le début, on fait quand même un constat, c'est qu'il y a un manque d'infrastructure et que l'infrastructure sur le marché du vélo pourrait permettre un gros développement. On travaille notamment avec la Belgique ou les Pays-Bas. La Belgique ou les Pays-Bas, l'utilisation du vélo, c'est quotidien, c'est dans travers toutes les pratiques, que ça soit en tant que particulier ou professionnel. Et donc, on pousse vraiment nos utilisateurs et puis le marché à se dynamiser dans ce sens-là.
On reste ensemble et on continue à parler vélo aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Montez le galibier, mais en restant sur votre vélo d'entraînement dans le garage, c'est possible grâce à une application qui vous offre, vous allez le voir, une immersion vidéo. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, la France pédale aujourd'hui. Demain va s'élancer depuis Bruxelles la 106e édition du Tour de France. Pour l'occasion, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir aujourd'hui les innovations françaises pour les cyclistes professionnels ou amateurs. Et vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Si vous avez des questions, vous êtes cycliste, n'hésitez pas, Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921.
Et vous qui êtes une grande sportive, Anissa, je sais que vous avez déjà pédalé en salle de sport en regardant la télé allumée ou sur un vélo d'entraînement hein, dans votre salon. Eh bien, pour ceux qui aiment s'entraîner, justement, il y a KinoMap. Bonjour Laurent Desmond.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette start-up. Au départ, vous êtes d'abord un passionné de cartes géographiques. Hein. Vous n'êtes pas du tout un cycliste, même pas un cycliste du dimanche.
Non, même pas.
Même pas. Voilà. Bon. Mais en revanche, vous aviez développé une plateforme de contribution vidéo et vous vous êtes très vite aperçu que ce sont des cyclistes en fait, qui sont venus poster leur parcours.
Oui, exactement. C'est arrivé il y a déjà une dizaine d'années. Le portail a commencé à l'époque où Google commençait à patrouiller avec ses Google Cars.
Ouais, 2010.
Voilà, 2010. On disait, bon, il ne passera pas partout. Finalement, dans beaucoup de pays, il est passé presque partout, mais avec pas forcément des données très à jour. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire à l'époque, parce que j'ai voulu lancer au départ, c'était un portail où les gens pouvaient en voiture, en vélo, en avion, filmer un endroit avec les données GPS et puis les mettre à contribution des autres pour parcourir ces vidéos d'une façon interactive grâce à la carte.
Et alors quand vous vous rendez compte que ce sont les cyclistes qui l'utilisent, ça vous donne l'idée d'aller plus loin. Vous avez commencé à réfléchir à un système qui allait permettre de mettre ces parcours sur des vélos d'intérieur pour que les gens qui s'entraînent fassent de réels tracés.
C'est ça, exactement. Donc en fait, on a eu très rapidement beaucoup de cyclistes qui ont mis des vidéos de vélos. Et puis, donc on a vu aussi des fabricants de matériel de fitness et de cyclisme, donc ce qu'on appelle les home trainers, hein, pour les passionnés du Tour de France qui démarrent demain. Le home trainer, c'est un équipement un petit peu particulier qui permet de réutiliser son vélo d'extérieur sur un châssis pour pédaler en intérieur quand la saison ne permet pas de faire autrement. Et donc,
avec les fameux rouleaux. Hein.
Avec les fameux rouleaux, voilà, on peut enlever sa roue arrière ou la garder. Il y a même des fabricants, on parlera un petit peu des innovations, qui proposent des choses maintenant avec la roue avant. C'est assez innovant comme secteur d'activité.
Ça veut dire que si demain j'ai envie chez moi, parce qu'il pleut dehors, de monter le Galibier, je peux le faire.
C'est ça, exactement. Voilà, on a beaucoup d'étapes du Tour de France ou des parcours du Tour de France, mais on a aussi le Giro ou le petit village qui n'est pas loin de chez vous et qui vous manque aussi l'hiver, ou bien le lieu où vous avez passé vos vacances. Et c'est vraiment un système collaboratif où les gens peuvent contribuer. Tous les jours, on a de nouvelles vidéos. Je crois qu'on a 160 000 km de vidéos.
80 pays couverts.
Voilà, 80 pays couverts. Des pays très exotiques comme le Pakistan, le Brésil, et puis d'autres où il y a beaucoup plus de vidéos, comme aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, qui est un gros pays de vélo et qui contribue beaucoup sur la plateforme également.
Et qui est plat, c'est important. Je pense aux débutants, c'est bien, Pays-Bas.
Il y en a pour tous les niveaux.
On va commencer par...
Dites-moi, comment vous avez fait pour vous lancer ? Il y a des investisseurs qui vous ont suivi au début ?
Oui, on a été suivi par des investisseurs régionaux il y a quelques années, qui ont réinvesti assez récemment, qui nous ont permis de financer ça. Mais on a aussi une approche assez conservatrice, parce qu'on peut se baser aussi sur les fabricants qui mettent du temps eux-mêmes à sortir des produits. Ils nous disent, tiens, on va sortir un super produit avec telle nouveauté qui va arriver dans 2 ans. Pour nous, l'horizon d'une start-up, 2 ans, c'est énorme. Et donc, on a aussi travaillé un petit peu à l'économie, de travailler avec une équipe assez réduite, qui est très compétente et que je salue, qui est aujourd'hui composée de 10 personnes. Et on est quasiment à l'équilibre depuis un an, notamment sur les bons mois que sont novembre à février, où il y a plus de gens qui s'entraînent en indoor à ce moment-là.
Ouais, vous avez quand même du monde, hein, 50 à 100 000 utilisateurs par mois, ça commence à vraiment fonctionner correctement.
Tout à fait. Puis on se diversifie avec le tapis de course, le rameur, le vélo d'appartement.
Et puis un partenariat aussi avec la fédération pour les jeunes espoirs, ça c'est important parce que du coup vous leur permettez, en intégrant votre technologie finalement, oui, de repérer ceux qui vont peut-être être demain les champions qu'on verra sur le Tour de France.
C'est ça, exactement. Voilà, on a une application dérivée de KinoApp qui permet d'aller très vite sur un environnement d'une animation, sur un autre sport. De là à dire qu'ils débauchent dans d'autres sports, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais en fait, vous avez parfois des jeunes, surtout au niveau des femmes, des filles à cet âge-là, qui vont être très explosives sur un sport, le basket par exemple, et qui vont être potentiellement très bonnes en vélo, mais qui ne le savent pas. Et donc, ça permet très rapidement de détecter leur profil d'explosivité, leurs meilleures 3 secondes en puissance pure, en watts. C'est l'unité utilisée par les cyclistes pour mesurer l'effort. Et donc, ça marche assez bien.
Que dit notre coach ?
Oui, au niveau marketing, comment vous recrutez ? Est-ce que vous faites un peu de teasing en disant, attention, le programme de la rentrée, ça va être tel pays, tel parcours ?
Voilà, il y a un petit peu ça. Le content management est vraiment important pour nous, parce qu'on est une plateforme un petit peu comme YouTube, par exemple, où en fait, on a des milliers, des centaines de contributeurs qui mettent en ligne des vidéos. D'ailleurs, on va avoir une grosse mise à jour de l'application en septembre, parce qu'on est très saisonnier, hein, comme on travaille par saison du coup depuis 3 ans.
Elles sont tous de même qualité ?
Voilà,
au niveau
pas toutes de même qualité, mais justement, on a un système, grâce à la communauté, qui permet de mettre en avant les vidéos de meilleure qualité. Nous-mêmes, on a un service de curation, une modération qui permet aussi de mettre en valeur les vidéos les plus intéressantes. Mais sur le marketing, en fait, on travaille beaucoup avec les fabricants qui, par exemple, je parlais tout à l'heure des innovations qui ont sorti l'an dernier pour l'un d'entre eux, quelque chose qui permet de faire remonter la roue avant du vélo, par exemple. Donc ça ne change rien sur l'effort, mais c'est beaucoup plus immersif parce qu'on se retrouve comme dans la vraie vie sur la montagne. D'autres qui ont rajouté un ventilateur connecté, par exemple, qui rajoute l'aspiration comme il faut. Alors, pas au moment où on voudrait, parce que quand vous avez de l'air, c'est que vous êtes en descente, que vous allez vite, donc ça vous permet de vous rafraîchir. Quand ça monte, vous n'avez pas d'air, mais c'est comme dans la vraie vie. On a un autre fabricant qui a fait un système qui permet aussi de changer la texture de la roue, donc que vous sentez les pavés quand ils arrivent. Donc tout ça, ça rajoute à l'immersion. Et donc on travaille beaucoup avec ces fabricants pour être prêts quand eux annoncent leur nouveauté produit, pour nous le faire également.
C'est comme dans un jeu vidéo, sauf que c'est la réalité.
C'est ça, on peut le dire comme ça, effectivement, c'est à base de vidéos.
Et vous êtes aujourd'hui, vous travaillez avec Domios, hein, qu'on connaît parce qu'on les trouve notamment en grande surface. C'est un gros vendeur de vélos d'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui a permis justement la démocratisation de ce que vous avez inventé.
Oui, vraiment, on a commencé par le milieu du vélo. Hein. Johnny en parlait, il est vraiment dans le milieu du vélo aussi. Que les performeurs qui vont faire le Tour de France, etc., ça va être du cyclisme pur. Depuis 2 ans, on est vraiment beaucoup plus dans le fitness, comme la marque Domios, donc dans les magasins, Decathlon par exemple, mais d'autres marques comme ça qui sont dans le fitness, où là on va avoir des gens qui vont pas forcément le même niveau sportif, qui vont pas vouloir monter l'Alpe d'Huez, qui va être trop dur pour eux, mais qui vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle un mode découverte, qui permet de voir le paysage à la vitesse de défilement de celui qui a filmé.
Au lieu d'avoir juste le petit dessin sur l'écran et la courbe de montée ou de descente.
C'est ça, exactement. Donc qui permet de le faire d'une façon plus simple, plus valorisante
et
aussi.
Et plus ludique aussi.
Et plus ludique, voilà. Je parle souvent de ma maman qui se sert de l'application aussi pour faire du tourisme et puis découvrir des endroits en particulier. Donc là, c'est plus du tout la même cible, c'est une clientèle beaucoup plus large. Et donc, l'innovation prochaine qu'on va proposer aussi, ce sont des vidéos de coaching qui permettent aussi de recevoir des instructions pour perdre du poids, pour rester en forme, etc. Et pas forcément filmer en extérieur dans ce cas-là.
Et on parlera évidemment des projets dans un instant. On reste ensemble, on parle cyclisme et vélo aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Quand on est cycliste, on sort casqué, mais quand on met pied à terre, il faut poser le casque, le ranger. Eh bien, vous allez voir qu'une start-up a inventé celui qui se rétracte et qui se plie en deux. À tout de suite.
Demain va s'élancer depuis Bruxelles la 106e édition du Tour de France. Un Tour de France que vous allez vivre évidemment sur Europe 1 avec Axel May, Marguerite Lefebvre et toute l'équipe des sports d'Europe 1. Et bien aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir les innovations françaises pour les cyclistes professionnels ou amateurs. Tiens, d'ailleurs, vous êtes cycliste, vous faites un peu de vélo et vous avez des questions à poser aux invités de Raphaël Duchemin. C'est maintenant que ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au standard le 39-21, 50 centimes la minute.
C'est vrai que le vélo est partout hein, aujourd'hui et quand on fait des sorties, que ce soit en ville ou sur les routes d'ailleurs, pour s'entraîner, il faut porter un casque. Bonjour Clément Caillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs d'Overhead. Le problème avec le casque, vous serez d'accord avec moi, je suppose, c'est qu'une fois qu'on l'a enlevé, il faut le ranger.
Exactement.
Et c'est quand même relativement encombrant. C'est comme ça que vous est venue l'idée de faire un casque pliable.
Exactement. La première raison qui fait que les gens ne portent pas de casque à vélo quand ils se servent de leur vélo comme d'un moyen de transport, c'est parce que c'est encombrant. On va s'arrêter plusieurs fois, à plusieurs endroits dans la journée, au travail, au restaurant, au cinéma. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, au bout de quelques temps, on arrête de l'utiliser. Donc là, vu que notre casque, une fois replié, voit son volume divisé par 3, on a un casque qui est beaucoup plus pratique à utiliser et à utiliser au quotidien.
Alors, ce casque, il est avec nous. Je voudrais que Anissa nous montre comment ça fonctionne.
Bien sûr.
Et que vous nous expliquiez en même temps combien de temps vous avez mis pour le réaliser, pour le concevoir. Qu'est-ce qui a été important dans sa fabrication?
On a plus de 5 ans de R&D pour mettre au point le produit, oui. Ce qui était extrêmement compliqué, c'est qu'il faut que, malgré le fait qu'il soit pliable, il apporte le même niveau de sécurité qu'un casque classique. On a des normes en Europe sur les casques de vélo. Et donc, il a fallu développer le produit en gardant à l'idée qu'il allait devoir répondre à cette norme. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de 5 ans de recherche et développement. Ouais.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le développement des Vélib hein, qui vous a donné l'idée de vous intéresser à cette problématique.
Exactement. Il y a un petit peu plus de 10 ans, les Vélib sont arrivés à Paris. Beaucoup de monde s'est mis à utiliser ces vélos. Et les premiers échos disaient que ça était potentiellement dangereux. Les automobilistes n'avaient pas l'habitude qu'il y ait autant de vélos au milieu de la route. Il y avait à l'époque un petit peu moins de pistes cyclables qu'aujourd'hui. Les cyclistes eux-mêmes n'étaient pas habitués à circuler en ville. Et donc, mon associé, Philippe Arouard, s'est demandé pourquoi ces gens ne portent pas de casque si c'est dangereux. Et donc, il a mené une étude et pour plus de 70% d'entre eux, la première raison qui fait qu'ils ne portent pas de casque, c'est parce que c'est encombrant. Donc il s'est dit, il faudrait faire un casque pliable qui serait plus pratique à utiliser, à transporter.
Alors Anissa,
voilà comment est venue l'idée.
Vous nous montrez, alors
oui.
là il est fermé.
Il est plié.
Oui.
Alors il y a 4 étapes. Hein.
Ouais. Donc,
première fois voilà. Comme ça. Voilà, ensuite je tire vers l'avant.
Hop, voilà. Et ensuite on le ferme pour qu'il soit complètement. Et voilà.
Voilà. Et là, j'ai un vrai casque.
Il
n'y a plus qu'à.
Voilà. Il nous manque le vélo pour pédaler.
Absolument,
et on est prêt.
C'est bien dommage.
Vous ne vous êtes pas arrêté là, hein, au casque. Vous avez aussi complété l'équipement. Si j'ose dire, vous avez fait une sacoche inviolable.
Exactement. Aujourd'hui, notre ambition à Overhead, c'est de devenir une vraie marque dans la mobilité urbaine en développant des accessoires innovants pour le cyclisme et pour la trottinette électrique. Donc, l'an passé, on avait malgré tout, malgré le fait qu'il soit pliable, ce casque, on avait des gens qui nous disaient que ce serait quand même idéal si on pouvait le laisser sur le vélo, et parce qu'on n'aurait vraiment rien à transporter. À force de réfléchir à ça, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sacoche qui serait sécurisée ? Et de là nous est venue l'idée de notre sacoche sécurisée, donc qui intègre un antivol et qui est surtout doublée d'un matériau anti-coupure. Donc vos accessoires de cycliste, casque, gilet jaune, éclairage, les gants, une fois que vous les avez mis dans la sacoche, vous pouvez accrocher la sacoche sur votre vélo et les laisser sur votre vélo en sécurité.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé pas mal d'innovations autour du vélo, hein, en cherchant.
Alors, autour du vélo, oui, il y en a énormément. Alors, par exemple, pour les casques, vous avez Sculpteo. C'est le premier casque, vous le connaissez peut-être, premier casque pour les vélos entièrement imprimé en 3D. Voilà, il y a ça qui existe. Vous avez le casque bumper qui va être pliant et gonflable. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Il pourrait tenir dans l'espace d'un paquet de cigarettes. Ça vous semble possible ?
Alors, le fait qu'il tienne dans un paquet de cigarettes, une fois qu'il est vide d'air, oui, c'est tout à fait possible. Ils vont avoir les problématiques qu'on a rencontrées pendant 5 ans pour arriver à faire certifier leur produit. Il faut qu'un casque, pour être vendu comme tel...
Qui remplisse énormément de critères de sécurité.
Oui, il y a des normes.
Il y a des normes à respecter. Les normes, elles créent, il y a des tests d'impact, etc. Il va falloir qu'il soit capable de répondre à tout ça. Mais c'est quasiment le produit idéal quand on l'imagine comme ça. Ouais.
D'autres innovations.
Du casque, vous avez, quand vous montez à vélo, vous avez aussi le sac à dos. Et certaines marques comme Galant qui a proposé le sac à dos clignotant, ça s'appelle le galuchon, pour diriger et éclairer les cyclistes. C'est un sac à dos doté de bretelles lumineuses connectées à une application mobile.
Luc, notre coach.
Oui, je pense que vous avez fait breveter votre casque.
Obligé, là.
Oui. Alors, j'ai une question. Vous connaissez notre attachement pour le Made in France. Donc, j'ai vu sur votre site que c'était Design in Paris, mais fabriqué où? Je sais que ce n'est pas fabriqué en France, mais quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit fabriqué? Maintenant que tout est breveté, il n'y a plus de...
Alors pour être tout à fait transparent avec vous, au début de l'industrialisation du produit, on a cherché à le faire fabriquer en France. Les investissements en termes de moules étaient bien supérieurs à une fabrication asiatique. Et nous, au départ, en tant que start-up, on a levé des fonds en 2012, mais ils n'étaient pas suffisants pour arriver à acheter des moules en France, on va dire. Et la deuxième problématique, qui est certainement la plus forte, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'assemblage sur notre produit. Notre produit, il est fait de plusieurs pièces, alors qu'un casque classique, il est fait grosso modo simplement de deux pièces qu'on emboîte l'une entre elles. Et donc, qui dit assemblage, dit beaucoup de main d'œuvre. Et aujourd'hui, on estime que notre produit, qui vaut 99€ en prix public, vaudrait plus du double s'il était fabriqué en France. On n'est pas du tout certain qu'à l'heure actuelle, on ait un marché pour ça. Néanmoins, on réfléchit à imaginer un produit qui irait plus loin que ça et qui pourrait être fabriqué en France avec des matériaux recyclables, des matériaux complètement différents.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, nous, aujourd'hui, justement, pour que ça soit possible demain et que ça reste à un prix acceptable ?
Alors aujourd'hui, typiquement, on est en train de lever des fonds pour aller. C'est pas le marché du vélo, mais c'est le marché de la trottinette. On innove dans la trottinette en faisant notamment une boîte connectée qui permettrait d'accéder au casque sur les trottinettes en libre service. Et donc on est en train de lever des fonds pour avancer sur ce segment-là. Mais demain, si on souhaitait faire des casques français, on aurait besoin de fonds importants, ne serait-ce que pour lancer les moules. L'investissement en termes de moules. En prix asiatique, c'est plus d'une centaine de milliers d'euros. Et en France, c'est 3 ou 4 fois ce prix-là. Donc voilà.
Bon, il y a peut-être effectivement des gens qui sont dans cette branche-là et qui nous écoutent en ce moment et qui vont peut-être vous contacter, qui sait, pour peut-être pouvoir tout fabriquer en France. On reste ensemble et on parle vélo et cyclisme sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous et vous nous appelez 3921 et Twitter aussi, hashtag Europe 1, c'est la France qui roule aujourd'hui. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, une émission consacrée au vélo puisque demain va s'élancer depuis Bruxelles le 106e Tour de France. Vous pouvez réagir à cette émission. C'est maintenant qu'on lit vos messages, qu'on lit vos questions, vos réactions et qu'on vous écoute au 39-21. Tous vos messages, c'est aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Nous sommes avec Luc Le Sénécal, qui est le PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. C'est notre coach aujourd'hui. Elisabeth Assayag est là, bien sûr, et nos invités. Johnny Smith, cofondateur de Velco, une start-up qui a conçu le Wingbar, le premier guidon de vélo connecté. Laurent Desmond, cofondateur de Kinomap, application qui nous immerge dans la route. On vit carrément le galibier ou le Ventoux en direct avec la vidéo. Et puis Clément Caillot, qui est le cofondateur d'Overhead, un casque de vélo notamment qui se replie en deux avec une partie télescopique au milieu. Entre autres, il y a aussi un sac inviolable pour ceux qui font du vélo. Moi, j'ai envie qu'on parle d'avenir. On a déjà un petit peu commencé avec vous, Clément. Vous dites, moi j'aimerais pouvoir effectivement fabriquer en France, c'est un peu trop cher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez de faire et de faire Made in France?
Notre casque, on pourrait aller sur des matériaux vraiment différents, un petit peu plus techniques et au-delà de simplement la fabrication made in France, aller chercher des choses beaucoup plus particulières. On pourrait imaginer des revêtements en cuir assez haut de gamme. On pourrait imaginer il y a des choses qui se font dans le lin notamment ou du carbone et ça permettrait d'aller vendre le même casque à 100 au double du prix, par exemple, simplement en disant qu'il est made in France, je ne sais pas si ça suffira à faire accepter l'écart de coût.
Si par c'est contre... 20 ou 30% plus cher, ça passe en général.
Oui, c'est ça. Si,
au-delà, c'est un peu
plus compliqué.
Cibler
100, vous êtes à 99€, 149. Hein, et bah. c'est jouable. Hein, je... quel est le prix d'un casque?
Allez, on prend les paris, on en reparlera aussi.
Oui. Un casque classique, combien
si on va, si on va dans la grande distribution, le plus gros vendeur de casques, c'est Decathlon. Sur des casques classiques, on est à des casques qui valent une petite vingtaine d'euros.
Ouais, donc, parce qu'on n'est pas sur des professionnels. On s'adresse effectivement à monsieur, madame, tout le monde. Donc,
mais un casque de moto, par exemple, combien ça vaut?
C'est beaucoup plus cher.
Alors, un casque de moto, des marques un petit peu équivalentes à la nôtre, c'est-à-dire des marques un peu moyennes, haut de gamme,
premium,
ça vaut entre 500 et 800 euros pour des marques japonaises.
149€ pour faire du vélo, c'est...
Et ça dépend réellement des profils des gens. Quand on est dans notre réseau de détaillants, 99€, les gens considèrent qu'on est plutôt bien positionné en termes de prix.
Et c'est jouable à 99€?
Aujourd'hui, 99€, ouais, c'est le prix du produit
mais
actuel.
Mais pour vous, après, pour continuer...
Si on faisait une fabrication française, honnêtement,
non, c'est pas
possible. On pourrait pas être à...
Oui, mais vous pourriez la réexporter.
Ouais. Laurent Desmond, vous, les projets, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, j'ai pas du tout les problèmes de mes collègues d'industrialisation, etc. C'est surtout de l'ingénierie, du développement informatique, mobile. Alors, c'est quand même difficile de recruter des développeurs dans le mobile, qui est un métier un petit peu nouveau. Là, les nouveautés qui arrivent, c'est vraiment une socialisation, enfin de la gamification de l'application beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche, vous entraînez, vous choisissez une vidéo d'un endroit qui vous convient avec la distance, la durée, etc. C'est déjà fonctionnel.
Et puis, vous allez arriver aussi dans les salles de sport.
Et voilà, et on va arriver dans les salles de sport, effectivement. On a essayé déjà avec notre version actuelle. On a des petites anecdotes rigolotes où ça marche tellement bien que ça ne plaît pas forcément à la salle de sport parce qu'ils n'ont pas assez de tapis de course ou de vélos d'appartement. Ils préfèrent que les gens aillent faire des cours collectif qui coûte un petit peu moins cher. Mais de toute façon, c'est compliqué parce qu'on est sur une application qui fonctionne sur son smartphone ou sa tablette. Et donc, il faut venir avec quand on est dans les vestiaires, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, on va rentrer dans les salles de sport par une version embarquée directement sur l'écran des machines utilisées en salle de sport. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour les utilisateurs et pas d'appareil à ramener dans la salle.
La suite pour vous, Johnny, c'est quoi?
Alors nous, en fait, on développe en parallèle du Wingbar, on propose nos solutions professionnelles. En fait, on a une solution notamment touristique. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, visiter Paris en 2 heures grâce au guidon connecté. Le guidon connecté va vous guider physiquement cette fois. Il vous guide à travers Paris et puis quand il vous dit de vous arrêtez et automatiquement sur votre smartphone apparaît la description du point d'intérêt en vidéo, en photo ou en texte. Le but, c'est vraiment de proposer une expérience aux touristes pour qu'ils puissent s'immerger et puis comprendre pourquoi l'architecture de tel bâtiment ou quelle est l'histoire derrière telle place.
Et puis ce qu'on n'a pas dit, Elisabeth, c'est que le vélo, ça peut aussi transformer les fins de mois.
Mais oui, il y a des startups qui se sont lancées là-dedans. Vous avez Cycling Heroes, qui est une communauté qui récompense, alors là, c'est les cyclistes du monde entier, peu importe le niveau, peu importe le type de pratique ou de fréquence de sortie, chaque kilomètre compte. Ils ont des partenariats avec des marques et chaque kilomètre vous permet de gagner des offres de grandes marques. Vous avez EcoVélo, là ce sont des vélos publicitaires. Si vous utilisez le vélo régulièrement, vous avez des petits panneaux publicitaires sur les roues, eh bien vous êtes rémunéré.
Voilà, toutes les innovations, quelques-unes des innovations dont on avait envie de vous parler aujourd'hui, puisque vous le savez, le Tour de France s'élance demain. Merci à tous les trois d'être venus sur Europe 1 et on va continuer à parler vélo.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et oui, vous connaissez probablement les vélos en carbone. Eh bien, le premier sur le Tour de France était signé Look Cycle. C'est l'entreprise qui va bien, merci. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale vélo puisque c'est demain le grand départ du Tour de France depuis Bruxelles. 106e édition du Tour de France que vous allez pouvoir suivre sur Europe 1. L'entreprise qui va bien, merci, c'est une entreprise leader mondiale dans ce domaine, Raphaël Duchemin.
Ah oui, et elle nous emmène effectivement sur les routes du Tour. Bonjour Vincent Holterbosch.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'innovation chez Look Cycle Group. Look, c'est une entreprise qu'on connaît tous, hein, qui a démarré en 1951 en Bourgogne. Et alors à l'époque, moi je ne le savais pas, elle fabrique des vessies de ballons de foot. Rien à voir avec le vélo, en tout cas pour l'instant.
Tout à fait. Et ensuite, pendant une trentaine d'années, le fondateur, grand pratiquant sportif, s'est mis à faire du ski. Et a eu quelques
pour les
soucis,
fixations, hein,
fixations
notamment.
De ski. Et a eu quelques soucis et a développé plusieurs innovations sur les fixations de ski. Donc, à partir de 1980, il a commencé à s'intéresser sur le domaine du cycle et plus particulièrement une problématique qu'avaient les cyclistes pour le pédalage et la sécurité quand on tombe avec des cale-pieds.
Et alors, il y a un personnage que tout le monde connaît, qui est Bernard Tapie, qui arrive dans l'aventure aussi à un moment donné, qui va racheter. Et à ce moment-là, il acquiert en parallèle une équipe cycliste.
Tout
son ambition, c'est justement d'inventer la pédale automatique.
Exactement. Bernard Tapie a fait une sorte de cocktail magique avec les besoins des cyclistes professionnels, de plus de sécurité. Et également, la situation de Look au niveau financier était plutôt précaire, liée à la saisonnalité du ski. Donc Bernard Tapie a eu l'idée de pousser les ingénieurs à développer un mécanisme plus sécuritaire et qui permettait également d'améliorer la performance des cyclistes. Et grâce au sponsoring initié par Bernard Tapie, donc avec l'équipe La Vie Claire.
Et Bernard Hinault.
Et Bernard Hinault, bien sûr, avec un icône incroyable qui est Bernard Hinault, on a lancé la pédale automatique.
Alors, elle sort cette pédale en 82, 83.
Elle sort en 83 au niveau commercial, brevetée en 83, lancée en 84. Et elle gagne en 1985 le Tour de France avec Bernard Hinault.
Vous allez industrialiser un petit peu plus tard hein, cette pédale. On est là dans les années 90.
En 1985, beaucoup de cyclistes continuent avec les cale-pieds. Mm-hmm. Et petit à petit, cette solution s'est démocratisée. Tout le monde a été attiré par le concept sécuritaire et le plaisir de rouler avec des pédales automatiques. Donc ça a été vraiment un vrai boom année après année. Look a pu devenir leader mondial dans ce secteur.
Combien de pédales fabriquées depuis le départ? Vous avez cette idée-là?
Ouais, ça se chiffre en millions et millions. On parle de plusieurs centaines de milliers de paires déjà produites tous les ans en ce moment. Donc c'est vraiment des millions de pédales.
Et puis la fierté, et ça va plaire à Luc, hein, c'est que c'est vraiment du Made in France. 100%, toute la filière, qu'on parle plastique, qu'on parle usinage, qu'on parle traitement, tout est véritablement fait en France.
Tout à fait. Nous, à chaque nouveau projet, nous avons une obsession, c'est de vérifier si la filière peut être au maximum proche de Look pour bien sûr optimiser tout ce qui est stock, mais également valeur. Donc on passe du temps avec nos fournisseurs pour bien comprendre quels sont les postes de coût pour définir le produit et la pédale au juste prix.
Luc, justement.
Oui, alors on parlait d'innovation, donc on a bien compris, vous avez commencé par la pédale, etc. Et maintenant, vous en êtes où? Vous êtes passé à l'électrique?
Alors, ouais, donc on a trois secteurs d'activité principaux. Les pédales automatiques, où on est leader mondial. On fait également des vélos en carbone, en fibre de carbone.
Vous avez été les premiers d'ailleurs à les faire.
Exactement,
ces
vélos. Donc première victoire sur le Tour de France en 1986 avec Greg LeMond sur un vélo carbone.
Et ils sont beaucoup plus légers, hein, les vélos carbone, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. On passe de 1,6 kg environ à 1 kg, c'est ça?
Exactement. Et également, notre troisième secteur d'activité, c'est une société avec laquelle nous avons créé un groupe il y a quelques années, c'est Corima, qui fait des roues carbone et qui sont justement sur le Tour de France dès demain.
Et qu'est-ce que c'est que le gravel?
Alors, le gravel est une nouvelle pratique venue des États-Unis. C'est une sorte de vélo de route qui permet de rouler sur les chemins forestiers ou agricoles, donc en toute sécurité. C'est quelque chose de beaucoup plus roulant qu'en VTT. Donc quand on part avec un gravel, on part pour des fois 100 km. Et donc c'est une tendance qui permet d'avoir plusieurs vélos en un. Donc l'engouement est énorme au niveau des États-Unis. Et c'est un mouvement qui s'amorce également en Europe. C'est vraiment un segment de produit sur lequel Look a investi ces derniers temps.
Il y a Look dans le milieu du vélo en France. Il y a beaucoup de marques, je pense à Gitane, hein, spontanément. On a le sentiment que le vélo et la France, c'est quand même une vraie histoire.
Exactement. Donc, les Français sont amateurs du vélo, les Européens en général. Mais effectivement, on a eu beaucoup de grandes marques dans les années 80. Certaines ont survécu. Certaines ont été absorbées par des grands groupes un peu plus anonymes et internationaux. Et effectivement, Look a réussi à garder son identité et de garder à la fois des propriétaires de la société et des collaborateurs au maximum en France.
La suite, c'est quoi aujourd'hui pour Look?
Alors, Look, depuis 3 ans, est sous le giron d'Activa Capital. Et nous travaillons sur 4 piliers principaux. La première, c'est l'organisation. Donc, en permanence, améliorer et avoir une organisation la plus en plus agile. Pas uniquement travailler sur notre façon de faire historique. Donc, on améliore notre organisation. C'est également travailler sur notre distribution et notre communication digitale. Donc, nous avons, par exemple, ouvert une filiale aux États-Unis il y a moins de 12 mois. Travailler sur l'innovation, le développement produit.
Donc, nous avons
accéléré le nombre de développements produits. On va dire qu'on est passé de 4 à 5 lancements par an à 13 à 15 par an. Donc, on veut vraiment promouvoir la marque Look, puisque c'est une belle marque, c'est du design made in France. Donc c'est vraiment quelque chose d'important.
Et enfin, non seulement design,
mais fabrication.
Fabrication, donc c'est le troisième point que je voulais vous dire, c'est que notre industrialisation, on a un chantier lié à l'industriel qui consiste à moderniser, à rendre notre asset industriel le plus performant possible et bien sûr garder un savoir-faire unique dans la manufacture du carbone et la fabrication des pédales.
Et vous y arrivez aujourd'hui, effectivement.
Vous avez toutes les caractéristiques pour être une entreprise du patrimoine vivant, il faut postuler.
Je m'attendais à cette question.
Eh oui, c'est pas une question, c'est une suggestion.
C'est une suggestion.
C'est une suggestion, puisqu'il est effectivement président de l'association. Donc, je crois que c'est un appel du pied, Luc.
C'est un appel du pied,
ouais, voilà. Tout à fait. Merci.
Pour Look, 1951, effectivement, c'est Look et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup, Raphaël.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous voulez changer de parcours, en découvrir de nouveau, à vélo bien sûr? Eh bien, la solution s'appelle Mountain Pass. À tout de suite. La France bouge sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, on continue de parler de vélo.
Ah
hein,
oui,
parce
on
que
pédale,
c'est demain,
on pédale aujourd'hui. Et oui, avec une solution, Elisabeth, ça s'appelle Mountain Pass, une plateforme pour cyclistes.
Oui, c'est une start-up qui existe depuis 4 ans. Et elle propose aux cyclistes de partager les meilleurs itinéraires. Il s'adresse, heureusement, à tous les types de cyclistes. Hein, donc on peut en faire, nous, Raphaël, hein, débutant comme professionnel. C'est une communauté qui sillonne à vélo les routes de France, qui partage ses pépites, ses découvertes et ses itinéraires. Bonjour Frédéric Blavou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mountain Pass. Vous êtes situé à Toulouse. Comment est née cette idée de partager tous ces itinéraires Mountain Pass ?
La naissance, c'est assez simple en fait. Moi qui étais cycliste et qui suis toujours cycliste, je cherchais dans tous les coins où j'allais à trouver le plus bel itinéraire. À ne pas me retrouver sur une nationale avec des camions et de profiter de beaux points de vue, etc. Et malheureusement, je ne trouvais pas, ni sur Internet, ni quand j'allais en office de tourisme, etc., une bonne proposition. Donc je me suis dit, autant faire soi-même la chose et j'ai créé mountainpass.com.
C'est quoi un bon itinéraire?
Alors un bon itinéraire, c'est un itinéraire qui est adapté à sa pratique. Hein. Ça va être en fonction de ses envies. Est-ce qu'on est plutôt dans une découverte touristique, culturelle? Est-ce qu'on est dans une découverte sportive? En fonction de ses capacités, le dénivelé, la longueur, etc. Et puis un bon itinéraire, c'est un itinéraire sur lequel on se régale, entre guillemets, comme on dit, en tant que cycliste. C'est-à-dire qu'on va profiter d'une belle route, de jolies vues et de points d'intérêt.
Et grâce à vous, on a la possibilité d'avoir un itinéraire qui nous correspond partout en France.
Oui. Tout à fait.
Comment ?
Partout en France et un petit peu plus. Là, on est en train de s'étendre un petit peu en Europe. Mmh. Et c'est très simple, vous allez sur mountainpass.com, vous tapez vos critères, votre lieu et on va vous proposer des...
Votre niveau aussi.
Votre niveau, voilà, et on va vous proposer les meilleurs itinéraires qui ont été partagés par la communauté. La communauté, ça va être des cyclistes qu'on appelle les éclaireurs, qu'on a validés, hein, c'est vraiment des parcours de qualité. Et ça va être aussi des destinations, offices de tourisme, des hôteliers, etc. qui vont vous proposer vraiment leur meilleur parcours au départ de chez eux.
Luc ?
Oui, ben je pense que vous êtes complètement dans l'air du temps. Et moi, j'avais une suggestion à vous faire. Vous savez que dans toutes les régions de France, vous avez des entreprises qui se visitent, ce que j'appelle le tourisme de savoir-faire. Et je pense que chaque région a ses propres entreprises. Et bientôt, en septembre, il va y avoir une sélection par entreprise et découverte des 100 meilleurs sites de savoir-faire à visiter en France. Et ça serait bien que vous puissiez... l'offrir par région, enfin offrir cet itinéraire-là, le tester, et je vous invite à le faire, parce que le tourisme de savoir-faire, ça va dans cette philosophie aussi de recherche, comment c'est fait, où c'est fait.
Ça me paraît tout à fait pertinent, et c'est vraiment vers ça qu'on va, c'est-à-dire vers de la proposition d'itinéraires thématiques. Donc on a des thématiques qui sont bien connues, comme le no-tourisme, on va découvrir les vignobles à vélo. Il y a un des plus gros itinéraires.
C'est pas un peu dangereux, ça ?
Non, il y a une dégustation qui peut se faire de manière très légère pendant le parcours. Et après, il y a un des itinéraires les plus fréquentés d'Europe, voire le plus fréquenté, qui est la Loire à vélo, où là, on va avoir tout un patrimoine. Il y a les vignobles à nouveau, mais aussi les châteaux. Et effectivement, ce genre de thématique, visiter les entreprises, etc., ça me paraît tout à fait pertinent.
Et donc, votre modèle économique repose sur ces organismes de tourisme, sur ces hébergements ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un métier d'agence, hein, je ne veux pas être trop technique, mais on aide les professionnels à structurer leur offre et à communiquer. Hein, c'est-à-dire qu'un office de tourisme, un hôtelier, etc., qui ne sait pas trop comment faire pour accueillir les cyclistes, on va lui proposer toutes les solutions.
Vous.
Oui, ça passe par nous.
Combien d'utilisateurs aujourd'hui ?
Alors, on est en pleine croissance, hein, on est parti de zéro, hein, faut bien le voir, il y a 4 ans. Donc, on avait un trafic mensuel de 2000 utilisateurs. On décuple tous les ans, on a eu 20 000, 200 000 et cette année, on espère encore décupler.
Formidable.
200 000 donc ? Mieux peut-être l'année
prochaine,
un peu plus ?
Non, cette année, ça devrait être 500 000 ou 1 million de visiteurs mensuels, on espère.
D'accord. Mountain Pass, en tout cas, c'est la solution, cette plateforme pour les cyclistes, pour vous faire découvrir les meilleurs itinéraires. Merci à Luc Le Sénécal qui était notre coach aujourd'hui. Merci parce qu'il nous a offert des marinières.
Des marinières à six,
l'équipe. C'est le départ des
Merci
vacances,
beaucoup.
Mais c'est pour notre belle équipe, Raphaël.
Exactement, notre belle équipe qui s'en va pour partir,
s'en va.
Elisabeth, ouais. Anissa, nous on reste.
Vous ne les connaissez pas, mais c'est grâce à eux que vous avez pu nous écouter tous les jours.
Exactement. Alors un grand merci.
Je peux vous dire que c'est des pros. Hein. C'est
ouais, un grand merci vraiment pour ceux qui sont derrière la vitre. Thomas Caillé, Lorraine Servant, Aurélie Sellerier. C'est eux qui nous ont permis de faire bouger cette France. Thomas qui est à la réalisation. Ces blagues dans mon casque vont vraiment me manquer. Celles qui sont indispensables et que vous ne voyez pas, hein, mais qui sont là toute l'année, qui ont cherché dès que j'avais une idée totalement dingue qui me passait par la tête, qui ont trouvé les bons interlocuteurs, qui nous ont aidés à monter des émissions, en débrancher, en rebrancher d'autres. Quand, par exemple, il y a l'incendie de Notre-Dame, je veux changer de thématique. Elles sont là et elles font, sans rien dire, pour être toujours au plus près de l'actualité. Celles qui se sont passionnées aussi pour ce concept, hein, Elisabeth, qu'on a mis ensemble au point. Lorraine, Aurélie, merci vraiment.
Vous allez nous
à
manquer,
tous les trois,
de belles personnes.
Un grand merci. On a inventé cette France Bouge ensemble. C'est votre dernière. Je vous la dédie.
Merci beaucoup, Raphaël Duchemin. Retour de la France qui bouge en best-of, bien sûr, tout cet été sur Europe 1, que vous pouvez réécouter en podcast sur europe1.fr.
Mais on sera là la semaine prochaine.
Et vous êtes là la semaine prochaine, évidemment. Dans un instant, On de la raconte avec une histoire qui a marqué la France. Souvenez-vous, le 13 mai 1993, un homme entre cagoulé et armé dans une école maternelle. Dans un instant, Christophe On de la vous raconte Human Bomb, une prise d'otage à la maternelle de Neuilly.